Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado de LNH.com. Nicolas Ducharme au micro, je vous parle en ce 25 février en direct de nos bureaux de Montréal. Oui, donc le son va être un peu différent aujourd'hui sur le balado. En direct de vos bureaux, pourquoi? Parce qu'on va avoir des invités aujourd'hui à l'émission. J'en reparle dans quelques secondes, mais avant tout ça, je les accueille avec moi, les collègues habituels. Jean-François Chaumont, salut JF.
Salut Nick, bon après-midi.
Et Guillaume Lepage, salut Guillaume.
Salut les boys.
Messieurs, merci d'être là aujourd'hui. On dit 25. Normalement, on enregistre bien évidemment les mercredis, mais on enregistre en ce mardi aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à l'émission, on va avoir avec nous deux des meilleurs espoirs du prochain repêchage de la LNH, Caleb Desnoyers et Justin Carbonneau, qui vont être avec nous en deuxième portion d'émission. On va leur parler de leur saison, on va leur parler, j'ai l'impression, bien des choses, parce que je les ai vus tantôt, puis ils sont assez volatiles, c'est des bonnes personnalités, les deux, je vous le dis.
Allumé,
ça, c'est l'excellent mot.
Mouvementé.
Je pense que ça va être une entrevue assez intéressante. Les deux se connaissent. Bon, un joue pour les Wildcats de Moncton, l'autre pour l'Armada. Mais ils ont appris à se connaître, puis visiblement, il y a quelques atomes crochus entre les deux. Je pense que ça va être intéressant. Ils ont l'air à se picosser assez en plus. Là, donc,
un peu comme Guillaume et moi.
Oui, un peu comme Guillaume
et moi. Même atome crochu.
La même dynamique, mais... En moins grand pour un, en plus grand pour l'autre.
C'est vrai.
C'est exactement ça. Mais avant de parler du futur, on va parler de ce qui s'en vient dans la prochaine semaine, c'est-à-dire la date limite des transactions. Donc aujourd'hui au balado, on va faire le tour de l'actualité de tout ce qui se passe, l'actualité de par rapport à la date limite, oui, chez les Canadiens, chez les autres équipes, quels joueurs pourraient bouger, quels joueurs vont rester en place, quelles équipes vont être actives. On va faire le tour de tout ça dans ce balado. Prochain balado, bien écoutez, là aujourd'hui, vous nous écoutez en ce mercredi, mais le prochain balado va être vendredi prochain. Donc après, quelques heures après la date limite des transactions, on va enregistrer ce balado de résumé, là, de bilan de date limite des transactions. Donc suivez-nous sur les réseaux sociaux, suivez-nous sur vos plateformes d'écoute, là, Apple, Spotify, YouTube, entre autres, pour être certain de vous rappeler, hein, peut-être tenir une petite alerte qui va vous dire quand le balado va être disponible, ce qui, si c'est comme à l'habitude, va être plutôt tard en soirée. J'ai l'habitude de finir plutôt tard lors de ces soirées-là. Et c'est parfait comme ça parce que ça s'annonce assez intéressant. Hein, messieurs, cette date limite des transactions-là, je trouve que c'est bizarre ce qui se passe un peu depuis un mois. On a eu... Une première date limite avec quelques transactions. Bon, on a vu la transaction Mikko Rantanen, Martin Nekash. On a bougé aussi du côté de JT Miller et Rangers. Il y a eu de l'action. Puis là, bon, il y a eu la confrontation des quatre nations et tout a stagné un peu. Il y a pas eu. Je ne sais pas si c'est le fait qu'il n'y avait pas de match, donc que le classement était gelé, que les équipes ont fait ben gars, je vais attendre encore un peu, voir comment mon équipe va réagir après. Le retour au jeu, on en est dedans là, présentement, le retour au jeu. Donc, à quoi vous attendez d'ici la semaine prochaine? Est-ce que vous attendez à ce que ce soit une des dates limites les plus occupées qu'on a eues dans les dernières années?
Honnêtement, Nick, c'est toujours difficile d'y répondre. Est-ce que ça va être occupé? Techniquement, je dirais que oui, parce qu'il y a plusieurs équipes toujours dans la course, toujours dans la lutte. Mais de là à prédire, il y a déjà eu quand même de grosses transactions. Rantanen, Nekatch, Mikael Granlund qui a été échangé. JT Miller, on sentait que ça bougeait, des équipes qui voulaient déjà déplacer des pions. La pause a fait en sorte qu'on a placé les transactions sur la glace. Mais à chaque année, tu as grosso modo 20-25 transactions la journée X. Cette année, c'est le 7 mars. Donc oui, il va y avoir du mouvement. Puis à commencer par, dans notre propre cours, du côté du CH, Kent Hughes, Jeff Gorton doivent analyser plusieurs dossiers. La participation aux séries reste mathématiquement possible, mais si on parle en termes logiques, le CH est assez loin. Donc, on peut s'attendre à des mouvements aussi du côté de Montréal.
C'est quand même étonnant. T'sais, on dirait que la pause de la confrontation des quatre nations a un peu ralenti l'air d'aller de certains directeurs généraux. Je ne sais pas si tu te souviens, Jean-François, après le dernier match au Centre Bell,
oui, Guillaume.
Jake Evans avait... Merci de spécifier. Jake Evans parlait au passé en parlant de son passage avec les Canadiens. On avait l'impression qu'il y avait quelque chose d'imminent peut-être dans cette qui s'en venait dans le cas de Jake Evans. Puis ben là, on est revenu, il a joué le match à Ottawa. Aujourd'hui, il est encore dans la formation. Donc, on dirait que Il y a encore de l'évaluation qui se fait. Le Canadien, oui, est loin, mais techniquement, c'est 5 points d'une place en série en ce moment. Donc, on n'est pas...
C'est ça, il n'est pas loin.
Mais on est loin parce qu'il y a beaucoup d'équipes.
C'est la congestion. C'est un peu un 17 heures sur la 40. Là. Il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup d'équipes devant le CH.
C'est ça, mais tu sais, je pense qu'on va se laisser encore un petit peu de temps, disons. Si le Canadien remporte 4 de ses 5 prochains matchs, ben, on a peut-être un discours différent, mais...
Il reste 5 matchs, en comptant celui contre les Hurricanes, au moment où on enregistre, on est mardi après-midi. Donc, il reste 5 matchs. On aura encore plus de réponses d'ici le 7. Mais le cas de Jake Evans est intéressant. T'sais, Guillaume t'en parlait. Oui, il parlait au passé, mais je crois que la situation n'a probablement pas bougé. Si les négociations avec le clan Jake Evans achoppent, bien probablement que Kent Hughes et Jeff Gorton n'auront pas le choix de le bouger. Puis Evans, honnêtement, à 1,7 million, un joueur de centre qui peut jouer en infériorité numérique, qui gagne des mises en jeu, qui n'est pas un gars de 40-50 points. Là, sa production offensive a ralenti drôlement depuis une vingtaine de matchs, mais c'est un gars qui est très fiable, va attirer l'attention juste par sa position et juste par le fait qu'il est droitier. Les deux éléments que les équipes recherchent souvent à une date limite. Puis il y avait le collègue Arpin Basu qui écrivait il y a déjà quelques semaines que peut-être les Canadiens pourraient offrir un duo. Evans et Yoel Armia, les deux jouent ensemble à 5 contre 5 et en infériorité numérique.
T'as déjà une chimie un peu.
Ils ont déjà une cohésion. Les deux en infériorité numérique sont quand même très bons. Yoel Armia a mentionné cette semaine qu'il voudrait poursuivre l'aventure à Montréal. Mais c'est quand même un ailier qui gagnait 3,4 millions de mémoire, Yoel Armia. Donc, si jamais on décide de s'asseoir et essayer de négocier, est-ce qu'Armia peut mettre un petit peu d'eau dans son vin, accepter moins que 3,4? Il ne faut pas oublier aussi, là, on a beau dire un tel va partir, mais tu dois garder aussi un semblant d'équipe d'hockey si tu ne veux pas être éternellement en reconstruction. Puis un autre point majeur, le Rocket de Laval connaît une très bonne saison. Si du jour au lendemain, tu vends 4 éléments de ton équipe à Montréal et que tu reçois que des choix ou des espoirs, mais il faut que tu trouves 4 chandails. Fait que là, tu viens prendre 4 joueurs du Rocket, tu viens freiner la progression d'une équipe. Puis on parle depuis le début de l'année que cette équipe-là doit apprendre à gagner, mais c'est la même philosophie dans la Ligue américaine. C'est bon si tu gagnes dans la Ligue américaine et que ces gars-là grandissent dans un environnement où ils vont jouer des matchs significatifs.
Et si je suis acheteur, un duo Armia-Evans, je prends ça demain matin, mais du côté du Canadien, si on soustrait ça de la formation en ce moment...
Ça dépend toujours du prix.
Tu sais, ce trio-là avec Emil Heinemann, Martin Saint-Louis en parlait encore ce matin, à quel point ils sont efficaces, à quel point ça fonctionne bien. Si tu enlèves ces deux joueurs-là, la fin de la saison va être laborieuse du côté de Montréal. Puis je sais pas si... T'sais, Saint-Louis disait encore ce matin qu'il était encore en avance sur l'an dernier, qu'il sent que son équipe progresse. Si tu arrives, puis il reste peut-être 20 matchs à la saison, puis c'est une lente agonie jusqu'à la fin, mais c'est peut-être pas la note sur laquelle tu veux finir cette saison-là.
L'autre chose qui doit un peu tracasser Kent Hughes, Jeff Gorton, c'est le fait que ce qui reste de match des Canadiens, ont le calendrier le deuxième plus facile de la LNH d'ici à la fin de la saison. Mis à part les Sénateurs d'Ottawa qui ont le troisième plus facile, toutes les autres équipes qui sont dans la course aux séries éliminatoires, les Red Wings, les Jackets, les Rangers, les Islanders, peut-être pas les Bruins, par contre, peu importe, là, les Bruins sont les seuls, mais toutes les autres que j'ai nommées sont tous dans le top 7 des pires calendriers d'ici à la fin de la saison. Donc oui, il y a du monde sur la 40, comme tu disais, JF, mais est-ce qu'on est dans la voie rapide, la voie de service sur le côté chez les Canadiens? Peut-être. Puis c'est là, comme on disait, que ce qui s'en vient comme match, les trois prochains matchs. Ouais. Je pense que c'est les trois prochains matchs qui vont vraiment décider ce que Kent Hughes... On peut prendre notre temps encore, parce que de toute façon, c'est pas comme si on avait des offres à plus finir, j'ai l'impression, sur la table. Il n'y a pas de Mikko Rantanen qui peut changer d'adresse, de JT Miller qui peut changer d'adresse à Montréal.
Mais calendrier facile, calendrier difficile... J'en prends puis j'en laisse. Là. Il y a un vieux sage qui a toujours dit que ça joue sur la glace. Mm. La portion de calendrier la plus difficile du CH cette année, après Noël, début janvier, c'est la portion où le Canadien a le mieux joué. Personne n'aurait prédit des victoires en Floride, à Tampa, à Vegas contre de grosses pointures. Et le Canadien réussissait à sortir de bons résultats. Oui, techniquement, selon les chiffres, le calendrier est favorable. Mais même là, je ne crois pas qu'ils vont changer leur mentalité, leur philosophie. À mes yeux, Hughes et Gorton ont réellement un plan d'établi. Ils ne vont pas en déroger. Si le Canadien était ce matin dans le portrait des séries, possiblement que le discours serait différent. Mais je crois que c'est deux hommes qui sont assez calmes, moins émotifs peut-être qu'un Marc Bergevin à l'époque. S'ils voient une occasion de bouger pour aider l'équipe à court, moyen terme, puis peut-être qu'ils vont surprendre avec une transaction hockey, quoique c'est plus rare que ça arrive à la date limite. C'est plus propice dans le coin du repêchage. Mais Alexandre Carrier, Justin Barron, c'était une transaction hockey. Okay. Donc, on pourrait être surpris aussi. Je pense que c'est deux DG. Un DG et un VP qui vont être actifs et très alertes là, d'ici le 7 mars.
Est-ce qu'il y a une chance quelque part dans l'univers où le Canadien est acheteur? Moi, je le vois dans une optique à long terme où tu as beaucoup de place sur ton plafond salarial, tu as des choix, tu construis pour l'an prochain. C'est pas pour faire les séries, c'est vraiment en vue des trois prochaines années. Il y a des noms qui ont été avancés, Cousins, entre autres, à Saint-Louis. C'est un nom comme un autre, mais...
Parles d'un Dylan Cousins qui a un contrat à long terme, acheteur pour du présent et du futur, je crois que tu ne peux pas dire que c'est un scénario qui est impossible. Mais je ne crois pas non plus que le Canadien va se déshabiller pour absolument acheter d'ici le 7 mars. Il y a l'horloge, là, on n'est pas à minuit moins 5. Je ne serais pas surpris qu'on magasine pour un joueur de centre numéro 2, qu'on pose des questions. Kirby Dack a probablement donné certaines réponses, à savoir que ce n'est pas lui qui va remplir nécessairement cette chaise-là. Alex Newhook, les fois où il a joué au centre, je ne suis pas persuadé non plus que c'est un joueur de centre. Mais à ce temps-ci de l'année, les équipes qui vont vouloir vendre vont aller chercher de gros espoirs, des choix de premier tour, ceux qui veulent vendre à haut prix pour des joueurs de talent. Mais écoute, on verra si on avait dit là, 4 mois que Mikko Rantanen était pour être échangé contre Martin Nekhatch. Il y a peu de gens qui auraient prédit cette transaction-là. Donc, on pourrait être surpris.
Quand même, bon, si on est vendeur chez les Canadiens, qui sont les joueurs qui pourraient bouger? Il y a deux noms, je pense, en défensive. David Savard, qui en est un. Bon, écoule la dernière année d'un contrat, va être joueur autonome sans compensation. Qu'est-ce qu'un David Savard peut rapporter? Et encore, on l'a déjà dit, mais est-ce que c'est peut-être mieux de le garder juste pour ce qu'il apporte comme leadership d'ici à la fin de la saison?
Ben, ça revient à ce qu'on disait. Là, est-ce que les Canadiens ont besoin d'un autre choix de deuxième tour, troisième.
C'est plus l'offre que Lightning avait faite au
Non, exact. On a remarqué dans les dernières semaines, dans les derniers mois, David Savard, par moment, c'est un peu plus difficile. C'est certain que si tu le mets dans une chaise de 5-6e défenseur dans une équipe qui aspire à la Coupe Stanley, peut-être le rôle est différent. Puis je suis sûr qu'il est capable d'offrir d'excellents services à une équipe dans cette position-là. Mais dans la position du Canadien, je vois mal, tu sais, qu'est-ce qui est avantageux là-dedans si tu n'obtiens pas de joueur en retour. Tu sais, si tu vas chercher un choix, comme disait Jean-François, ben là, tu déshabilles ta défensive. Donc là, c'est un Jaden Struble qui va rentrer dans une chaise de 5e, 6e défenseur. Tout le monde va monter d'une chaise. Puis
Kaden Goulet qui n'est pas là pour...
C'est ça. Dans le contexte actuel, tu sais, ce serait une aventure peut-être pour le Canadien de bouger tout le monde en défensive. Puis là, après ça, ben, tu reviens au même dilemme. Est-ce qu'on va rappeler un jeune de Laval alors qu'il a l'occasion de jouer en série et tout ça? Fait que, tu sais, si c'est pour un choix de repêchage, moi, je sais pas ce que le Canadien a gagné à en emmagasiner d'autres parce que là, on va se mettre à pelleter les choix par en avant dans repêchage parce que là, on a un maximum de contrats, on a un maximum, à un moment donné, il y a une limite à tout ça. Puis je pense que le Canadien est assez bien garni en ce moment. Je vois pas ce qu'un choix peut amener de plus.
À son bilan de mi-saison, Kent Hughes avait dit que s'il regardait pour des choix, on commencerait à regarder là, pour du 2027. Peut-être même 2028, juste 2025, 2 choix de premier tour, 2 choix de deuxième tour, 3 choix au troisième tour, 2 choix au quatrième tour et les choix de 5e, 6e et 7e tour. On parle de 12 choix déjà. Puis David Savard, il faut être quand même réaliste. Peut-être qu'une équipe, à la dernière minute, à la recherche d'un défenseur qui peut jouer en infériorité numérique, un droitier.
Tu gardes 50 % du salaire.
Oui, tu gardes une portion du salaire. David Savard peut peut-être apporter un choix de quatrième tour, de troisième tour, mais en ce moment, la valeur de David Savard pour servir de grand frère à Lane Hutson, à Jaden Struble, à Herbert Jackay, même si on parle de seulement 2 mois de plus d'hockey, là, finir le mois de mars, finir le mois d'avril, je pense que c'est plus grand comme importance que d'aller chercher un autre choix, un autre d'or, pour reprendre une expression de Marc Bergevin. Mais des d'or, il y en a assez. Là.
Savard n'a pas de clause non-échange, non-mouvement, tout ça. Est-ce que tu lui parles, si tu es directeur général, pour savoir qu'est-ce qu'il en pense, puis lui, qu'est-ce que tu veux? Parce que ça se peut que David Savard, d'aller terminer ce contrat-là, parce que là, bon, on va avoir 35 ans éventuellement, se dirige vers des contrats d'un an, on sait comment ça se termine d'habitude d'une carrière, de peut-être avoir une dernière chance d'aller courir après la Coupe Stanley. C'est une discussion que tu as avec David
D'après
Savard.
D'après moi, oui. Puis Kent Hughes, Guillaume, à moins que je me trompe, on parle d'un ancien agent qui a fait ça pendant plus de 20 ans, négocier, rassurer des joueurs. D'après moi, oui, il aurait la délicatesse de parler à David Savard. Mais là, on parle d'un joueur qui est originaire Saint-Hyacinthe, ton coin, aussi, justement.
Ouais.
Donc, leur vie, mais présentement, le rêve de jouer à Montréal. David Savard a des enfants. On voit souvent les petits bonhommes après les matchs près du vestiaire. Il a déjà gagné une Coupe Stanley avec le Lightning. Je ne veux pas répondre au nom de David Savard, mais je crois qu'il préférerait probablement finir son contrat, finir sa saison à Montréal.
Puis si je ne me trompe pas, l'an dernier, ça avait été une discussion qu'on avait eue avec David Savard. On lui avait demandé justement, est-ce que tu as eu des nouvelles de la part de la direction? Est-ce qu'on t'a parlé de tes intentions et tout ça? Puis si je me souviens bien, là, je vais de mémoire, mais il me semble que David avait dit qu'il avait eu des discussions avec Kent Hughes puis qu'il avait discuté un peu de toute cette situation-là. Donc cette année, alors qu'il devient joueur autonome sans compensation à la fin de la saison, c'est certain, d'après moi, que les canaux de communication sont ouverts entre Savard et la direction.
C'est-tu la même chose pour Mike Matheson? Ça en a un autre? Je pense que c'est le quatrième joueur qui pourrait permettre aux Canadiens d'aller chercher quelque chose?
Ben écoute, Mike Matheson, pour moi, une grande valeur au sein du CH. Il reste encore une année à un salaire qui est très abordable pour ce qu'il donne aux Canadiens de Montréal, là, à 4,875. Puis Mike Matheson, chaque fois qu'il parle du tricolore, il a le sourire dans le visage. C'est un Montréalais. C'est quelqu'un qui reconnaît l'importance de porter ce gilet-là. Puis il a vu aussi les années difficiles. Donc, s'il peut voir moindrement la remontée ou un début d'équipe qui commence à ressembler à une équipe qui peut cogner à la porte des séries, d'après moi, Mike Matheson va souhaiter poursuivre ses jours à Montréal. Tu sais, c'est facile de dire, oui, échangeons-le, ça va rapporter un bon espoir, un choix, etc. Mais Mike Matheson, tu sais exactement ce qu'il va te donner. Il est probablement dans les meilleures saisons de sa carrière sur le plan mental, psychologique. Mike Matheson est beaucoup plus fort aujourd'hui qu'il l'était il y a 5-6 ans. Puis prenons juste l'exemple, Arturi Lehkonen pour Justin Barron, où on se dit « Ah, parfait, on vient d'aller chercher un ancien choix de premier tour, un gros espoir qui s'en vient. » Justin Barron, à ce jour, sa carrière n'a jamais encore pris son envol. Puis Arturi Lehkonen a donné de très bonnes saisons à l'Avalanche. Donc, il faut toujours être prudent. Les espoirs sont toujours meilleurs, sont toujours hyper attrayants jusqu'au premier jour où il pose un patin sur une glace de la Ligue nationale.
Puis j'ajouterais Mike Matheson à 30 ans, l'année prochaine, 31 ans, peut être très bien dans la discussion pour re-signer même à
Absolument.
Montréal. Là,
oh,
donner
il
un
pourrait
3-4
signer
ans de plus,
une prolongation
là,
de contrat aussi. Là.
Puis tu sais, c'est les deux noms qu'on a nommés à la ligne bleue, c'est les deux plus âgés de cette brigade-là. Fait, est-ce qu'on recommence un cycle si on, pas se débarrasse, là, mais si on échange Savard et Matheson, ta défensive, on revient au discours de début de saison, peut-être au discours de l'an dernier, à se dire, ben là, la défensive est très, très jeune. Alexandre Carrier serait probablement le vétéran de cette ligne bleue-là. Je pense que c'est un. Il faut calculer aussi. Il y a des choses intangibles à calculer dans ces dossiers-là. Puis l'influence que ces deux-là ont au sein du vestiaire, c'est très important dans l'équation.
Bref, vous ne vous attendez pas à des feux d'artifice du côté du Centre Bell d'ici vendredi prochain.
Quelques petits pétards.
En parlant de pétards, il y en avait un gros aujourd'hui. Il y en a un gros aujourd'hui au Centre Bell avec la visite de Hurricane. C'est Mikko Rantanen. T'sais, souvenez-vous, bon, la transaction Rantanen avec Martin Nekash, ça a fait une bombe parce que Rantanen, oui, est joueur autonome sans compensation à la fin de la saison, mais jamais on aurait pensé que l'Avalanche l'aurait échangé. Transaction majeure. Mais là, avec ce qu'on a payé chez les Hurricanes, on s'attendait à ce que Rantanen soit ouvert à signer un nouveau contrat. On espérait le convaincre de signer un nouveau contrat. Et jusqu'à présent, ça lève pas. JF, tu y as parlé ce matin, ouais, à Rantanen. Bon, de un, c'est un Finlandais. C'est jamais les plus volubiles.
Ça dépend de l'heure de la journée.
C'est ça.
Mais oui, on continue.
Ah, c'est vrai. Ouais, tu nous racontais ça. Il y a deux épisodes avec... Ça, c'est les journalistes. C'est pas les joueurs.
Exactement.
C'est les journalistes finlandais qui ont un gros problème de boisson.
Non, non. Mais... Ils ont une joie de vivre importante.
C'est ça. C'est ce que je voulais dire. Est-ce qu'on commence à s'approcher, à avoir le doigt sur le bouton panique du côté des Hurricanes, selon toi?
Je ne sais pas si on s'approche du fameux bouton panique, mais on doit certainement avoir de bonnes discussions dans les hautes sphères de la direction des Hurricanes. Premièrement, pour ne pas revivre un Jake Gunzel 2.0, l'an dernier, les Hurricanes avaient donné 3 ou 4 espoirs aux Penguins de Pittsburgh afin de faire l'acquisition de Jake Gunzel. On espérait connaître un long parcours en série, ultimement gagner la Coupe Stanley. Ils n'ont pas gagné. Cette année, Eric Tulski sort un autre lapin de son chapeau, réussit à acquérir Mikko Rantanen. Le prix à payer, par contre, Martin Nekach, un joueur qui fera probablement plus de 80 points cette année, un choix de deuxième tour, un choix de quatrième tour, Jake Drury dans une transaction quand même compliquée là, à trois équipes. Ils ont payé un fort prix pour obtenir Mikko Rantanen. Mais ce qui peut être étonnant, c'est qu'il n'y a toujours pas de prolongation de contrat entre Rantanen et les Hurricanes. Rantanen était trop gourmand aux yeux de l'Avalanche qui ont choisi de l'échanger. Il est probablement encore tout aussi gourmand avec les Hurricanes qui n'ont pas la réputation de sortir inutilement les millions. Puis ce matin, on lui parlait à Mikko Rantanen. Il était installé dans le fond du vestiaire au Centre Bell. Puis Rantanen semblait déjà un petit peu fatigué de parler des rumeurs. Il nous a dit qu'il ne voulait pas penser au futur. Bien, je regarde ma montre. On est le 25 février. Le futur, actuellement, c'est le 7 mars pour lui. Quand on lui a demandé si c'était une priorité d'obtenir une prolongation de contrat d'ici le 7 mars, il a dit... Je ne veux pas répondre à cette question-là. Jamais, disons, il est tombé dans... Il n'a pas joué de violon pour dire à quel point il était heureux de rallier en Caroline du Nord, que c'était un rêve pour lui de jouer avec le clan finlandais Sébastien Aho et le très jeune Jesperi Kotkaniemi. Non, il n'a pas... Il restait très... straightforward, ouais. Je n'ai pas la bonne expression, là, droit au but.
Direct.
Ouais. Continuer à dire que c'est une question de temps avant qu'ils réussissent à prendre son envol avec les Hurricanes. Mais écoute, j'ose espérer qu'ils ont calculé leurs affaires. Rantanen, par contre, disait ça fait un mois qu'il a été échangé. Et dans ce mois-là, il y a eu pratiquement deux semaines de pause avec la confrontation des quatre nations. Donc, période de gel peut-être par rapport au négo avec le DG des Hurricanes. Voyons voir, mais déjà, son nom circulait dans les rumeurs. Ça, il nous a dit... Il en est conscient, mais le classique, comme quoi il ne lit pas ce qu'on peut écrire à son sujet, et que ça, Nicolas, Guillaume, ça fait partie de notre travail.
Oui, parce que si on arrive avec le Hurricane, c'est 3 points, 1 but, 2 passes en 7 matchs. Ouais. Pendant ce temps-là, Nekash a 9 points en 10 matchs avec l'Avalanche.
Mais l'équipe au complet, les Hurricanes ont une seule victoire à leurs 5 derniers matchs. Sébastien Aho, par contre, et Rod Brendamore disaient que Rantanen était menaçant, était dangereux. Que c'est une question de temps
avant qu'il
sorte de sa coquille.
Ce qui pourrait être un point de vente pour les Hurricanes si on décide de l'échanger, ce serait qu'on pourrait garder peut-être un 50% de son salaire. Donc là, tu as un Mikko Rantanen à moins 3 millions. Là.
Ouais,
oui, c'est intéressant, mais en même temps, parce que t'es les Hurricanes,
mais là, t'es supposé
viser la Coupe Stanley.
Ah, exact. C'est ça, le retour, je pense pas que tu vas réussir à obtenir un joueur qui a l'impact d'un Rantanen demain matin. Tu vas probablement obtenir de la qualité pour le futur. Mais les Canes, techniquement, c'est une équipe qui est construite pour gagner ce printemps-ci. Donc, surtout avec Dmitri Orlov, qui devient joueur autonome à ligne bleue. Mais bon, est-ce qu'ils ont le caractère et tous les éléments pour gagner? On verra. Puis une chose qui est intéressante, tu sais, Rantanen, c'est la première fois de sa carrière où on va lui demander d'être le fer de lance. Au Colorado, c'était Nathan MacKinnon qui transportait l'équipe sur ses épaules. Il y avait Cale Makar, la ligne bleue. Puis Rantanen était un super élément de ce casse-tête. On a tendance à l'oublier, mais c'est un gars qui faisait 100 points, puis en série, qui roulait un point par match, mais sans être le joueur vers qui tout le monde se tournait. Un peu comme peut-être Evgeny Malkin avec les Pingouins. Mm-hmm. Malkin a fait pratiquement toute sa carrière en étant... Pas pratiquement, toute sa carrière en étant en dans l'ombre de Crosby.
En finlandais, je veux dire, d'un finlandais, le Gary Coury.
Exactement, dans ce moule-là,
Edmonton. Là, donc c'est, ça, c'est un des gros dossiers. J'ai hâte de voir quel match, ça va donner quoi, quel match. Là. Bon, les gens, vous nous écoutez en ce mercredi.
Oui, puis peut-être que Rantanen aura eu 2 buts, 1 passe.
Ça débloque à Montréal.
Ça se peut parce que les Hurricanes ont une fiche de 17-1-2 à leurs 20 derniers matchs contre les Canadiens. Donc, ça devrait bien se passer. Si la tendance se maintient, ça devrait bien se passer pour les Hurricanes.
C'est plus facile pour le Canadien quand il est à Hartford, hein, les Hurricanes.
Avec le Brass Bonanza.
Le Brass Bonanza au Civic Center.
Guillaume, tu te souviens de cette chanson
de but? Je m'en souviens pas, mais je l'ai entendu depuis ce verre d'oreille.
Excellent verre d'oreille.
Tu sais qu'il l'avait mis dans NHL 94. Ouais.
Et ses probablement le plus beau logo.
Oui.
Celui des Whalers.
Tu savais qu'il y avait un H dans le logo des Whalers, Guillaume?
Oui, oui, toute la...
Et une baleine aussi. Une baleine.
Saviez-vous qu'il y avait un N dans le logo des Nordiques aussi?
Aussi.
Ben oui, aussi. Okay. Aussi. Il y a un H dans le logo aussi. Du Canadien aussi.
Est-ce que tu y crois, toi, Guillaume, un retour des Nordiques?
Oui, oui. Il y a aussi, fais pas le saut, mais il y a aussi un pingouin dans le logo des pingouins.
Oui, oui, oui. Il y en a un récemment, je ne me souviens plus lequel, mais j'ai découvert une signification cachée dans un logo.
Qu'est-ce qu'il y a derrière le pingouin?
Ça, c'est une excellente question.
Pas un bouton, là.
C'est un triangle.
Okay.
un triangle qui signifie les trois rivières de Pittsburgh, ouais. Three Rivers.
Ah là là là.
Alors...
On voit très bien quand on arrive
tout
des...
Ah, dans... oh, ouais. C'est ça. C'est le logo des Capitals de Washington.
Oui.
Que j'ai découvert le logo avec l'aigle. Que c'est...
Un W.
Il y a le sommet du Capitole.
Oui. Oui, tu viens d'arriver.
Qui est formé par l'aigle. Ça, je l'ai appris récemment.
Il est dernier au party. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
C'est tout est dans tout. Hein?
Oh oui.
Fallait le
penser. Enchaînons.
Les gars, bon, j'en ai parlé brièvement tantôt, mais la transaction de J.T. Miller, ça a été un grand coup donné par les Rangers. Mais depuis, ça n'a pas été ce qui a directement remis l'équipe sur les rails. On est 4-3-0 depuis ce temps-là. Est-ce qu'on laisse aller en espérant que ça finisse par coller chez les Rangers, puis on réussisse la remontée? Comme je vous disais, les Rangers ont un calendrier difficile pour terminer la saison. Au niveau du classement, présentement, on est à 2 points des Sénateurs d'Ottawa pour une place en série dans l'Est. Est-ce qu'on est obligé, du côté de Chris Drury, de bouger à nouveau? À quel point est-ce qu'on doit bouger à nouveau ou on doit s'améliorer?
Ben, je crois qu'il va y avoir... Ben, vas-y, Guillaume.
Ben, les Rangers, tu sais, on revient de la pause de la confrontation des quatre nations, on encaisse une défaite de 8-2 contre les Sabres de Buffalo. Je veux dire, combien de fois cette année on s'est parlé des Rangers puis on se disait « Ah non, mais ça va finir par cliquer. Là. Cette équipe-là ne peut pas ne pas faire les séries. Là, on fait l'acquisition de Miller, ça va régler, en tout cas, ça va amener de la profondeur, ça va les aider à se sortir du trou. » Puis là, finalement, ben ça semble pas fonctionner du tout du côté des Rangers. Est-ce que c'est une autre transaction qui va changer les choses? Tu sais, à un moment donné, je pense qu'il faut regarder à l'interne. Là. Clairement, il y a quelque chose dans cette équipe-là qui ne fonctionne pas, qui ne clique pas.
Je dis que Chris Drury a été extrêmement fidèle envers Peter Laviolette. Je pense que 95,7% des entraîneurs se seraient fait congédier dans une situation comme ça. Est-ce qu'il va le rester fidèle à la Violette d'ici à la fin de la saison? C'est quoi la corde présentement?
La structure défensive reste aussi douteuse en ce moment. Mm-hmm. Les Rangers accordent beaucoup de buts. Mais je crois que c'est une équipe qui risque d'avoir un entêtement, autant Chris Drury que Peter Laviolette. Une non-participation aux séries pour les Rangers de New York.
On va sentir le ménage du printemps.
Mais ce serait catastrophique. Puis ça se peut qu'il y ait un gros coup de balai. Je ne serais pas surpris de voir des têtes d'hockey qui vont choisir de protéger leurs arrières puis de penser à du très court terme plutôt qu'à l'avenir.
Ouais, ça,
mais même si Drury va d'une ou deux autres transactions, J.T. Miller, c'est encore du court terme, mais il n'y a pas encore eu l'effet escompté. Les Rangers, dernièrement, ont donné 6-7 buts par rencontre. Je vois pas...
Shesterkin est remis ou pas remis de sa blessure?
Je vois pas une solution miracle. Shesterkin était blessé avant la pause.
Ben, 8-2. Je sais pas si c'était lui devant le filet.
Il s'approche d'un retour, semble-t-il. Okay. Donc,
non, Shesterkin a joué.
Shesterkin a joué
contre les Sabres de Buffalo. Bon. Il a donné 5 buts.
Alors, il était peut-être
18
pas,
minutes.
Peut-être pas totalement remis, finalement, là, dans le cas
de Shesterkin. A rejoué le lendemain, a donné 3 buts sur 40 tirs. Donc,
ah, plus respectable.
C'est,
okay.
Mais tu sais, c'est à l'image de l'équipe ouais. tout au long de la saison. Ouais. C'est du,
boîte
du...
à surprise. Hein.
Donc, les Rangers, ouais. ça prend absolument de l'aide en défensive.
Ben, je serais pas surpris. C'est vrai que c'est un bon point de se dire, tu sais, je veux dire, ça passe sous sa case à New York. Donc, ça va peut-être être des décisions ouais. vraiment... égoïste peut-être de la part du directeur général de se dire « Écoute, je vais sauver mon travail, je vais sauver celui de mon entraîneur, puis on va participer aux séries. » Parce que cette équipe-là rate les séries au stade où ils en sont dans leur cycle, ce serait rien de moins qu'une catastrophe. Puis là, je pense que je vais arrêter de dire que les Rangers vont remonter la pente puis ils vont se mettre à gagner.
Ils sont toujours dans le coup. Les Rangers ont 60 points au moment où on se parle.
Mais
ils
sont aussi dans le trafic.
La dernière match, c'est 62. Mais oui, ils sont dans
le même trafic que le Canadien. Tu sais.
Exact.
Oui, dans les cibles, ben, si tu veux aller chercher un élément défensif fiable, il pourrait avoir un savoir. Au niveau des choix, présentement, les Rangers, ils ont... plus de choix dans les deux premières rondes. Ils n'ont plus leur choix de troisième ronde cette année, mais ils ont celui du Kraken, celui des Ducks en quatrième tour. Puis là, après ça, bon, ça, c'est pas tant important.
Mais ils ont un choix de premier tour en 2026.
En 2027, mais ils n'ont plus de choix de deuxième ronde dans ces années-là. C'est qu'il ne reste pas beaucoup de munitions là, à un moment donné. Là. Puis non, c'est ça, c'est la réalité des Rangers qu'on n'a pas été capable de développer nos jeunes joueurs dans les dernières années. Kittil est parti, Lundqvist est parti, Lafrenière, on espérait que ça débouche cette année, puis finalement, ça s'est rebouché en cours de route. Capo, ajoutez-le à la liste, un deuxième choix total. C'est là que les Rangers, là, on plafonne. Ce qui devait être l'aide, qui devait prendre la relève puis donner beaucoup de profondeur à cette équipe-là, bien, jusqu'à présent, là, c'est pas là. Donc, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais je ne suis pas sûr qu'on a les munitions. On est dans le trafic. Ça ne regarde pas très bien pour les Rangers. Surtout qu'on ne peut pas aller chercher personne dans la section métropolitaine. Là. Tout le monde a trop d'avance devant. Les Stars, on a beaucoup parlé de la blessure de Miro Heiskanen. Vous l'avez vu, Thomas Harley, ça vous a rassuré sa présence pour tenir le fort jusqu'aux séries éliminatoires, période où Heiskanen devrait relativement là, revenir. Là.
Il a été très, très impressionnant la confrontation des quatre nations. C'est pas un joueur qu'on voit jouer souvent. Là. Il passe à Montréal une fois par année. Mm. Mais là, de le voir entrer dans l'action comme ça, il était rappelé, il était sur son divan, il s'en allait en voyage dans le sud et rappelé, joue ce match-là contre les États-Unis, le premier dans la ronde préliminaire. Ensuite de ça, à quelques heures du match de la finale, on l'intègre dans la formation à la place de Josh Morrissey. Il a très, très bien fait. Honnêtement, le duo qu'il formait avec Drew Doughty, ça a été un des... T'sais, il a été le troisième défenseur le plus utilisé dans ce match-là contre les États-Unis en finale. Donc, oui, c'est rassurant. Puis c'est peut-être le signe que c'est un autre défenseur qui évolue un peu plus dans l'ombre, qu'on voit moins souvent. C'est Miro Heiskanen qui a les projecteurs braqués sur lui à Dallas. Mais derrière lui, ben t'as un Lindell, t'as un Thomas Harley qui sont là pour prendre la relève. Donc, oui, c'est rassurant du côté des Stars, mais je suis convaincu qu'on souhaite quand même retrouver Heiskanen pour le début des séries parce que c'est un très, très gros morceau en série. Là, il mange beaucoup de grosses minutes, comme on dit, dans le langage hockey.
Au-delà d'Heiskanen et Harley, je pense quand même que les Stars ont besoin d'un peu d'aide en défensive. Maverick Book pourrait-il être une bonne monnaie d'échange? Il n'y a pas tant de place pour lui présentement en attaque. C'est un gars qui a remporté le championnat des marqueurs l'année dernière dans la Ligue américaine. C'est un choix de première ronde. J'ai l'impression que c'est une belle valeur pour une équipe qui voudrait aller chercher un... peut-être pas d'idée, là. Je ne veux pas parler de... Je ne sais pas qui on pourrait aller chercher au niveau des défenseurs ici.
Ah,
là,
on
dans
parle
la Ligue,
d'un gars qui a remporté le championnat des marqueurs de la Ligue américaine l'an dernier. Qui est un joueur de talent. Les Stars, si je ne fais pas erreur, n'ont pas de choix de premier tour. Non, n'ont pas de choix de premier tour ni de deuxième tour en 2025. Mais il faut toujours Jim Neal est un des bons DG de la Ligue nationale. Je crois qu'il est assez sage aussi pour regarder sa structure à l'interne. Jamie Benn n'a pas de contrat à la fin de l'année. Matt Duchesne, Evgeny Nabokov, Mikael Granlund.
On retourne en arrière, là, GF. Evgeny Nabokov.
Evgeny.
Nick, t'avais pas réalisé. Je pensais que t'avais réalisé.
Evgeny Dadonov. On parle pas de la même position, mais on parle de.
Mais tu sais, il y a nommé un joueur qui existe au moins, là. J'ai pas allumé.
On parle de Ben Duchesne, Dadonov et qui manque l'autre Granlund qu'on vient de juste obtenir.
Ben Duchesne, c'est qui ça, Benoît Duchesne?
Non, mais tout ça pour dire un grand détour, messieurs, mais si tu échanges un Maverick Bourque qui va, à partir de l'an prochain, techniquement, remplir un rôle plus important, ça reste un pari. Le retour est mieux d'être intéressant.
Mais les Stars en sont au point où il faut passer.
Faut
la finale de l'Ouest, c'est bien beau, mais il faut passer à la finale de la Coupe Stanley puis éventuellement la remporter, là, idéalement. Donc, si tu en es à ce point-là, peut-être que tu dis, bon, on échange Maverick Bourque, peut-être quelques bonnes années à court terme pour une Coupe Stanley, ben. Mais c'est un gros aussi. La Coupe Stanley, c'est pas quelque chose.
Semble-t-il que présentement, Bourque est sur le premier trio des Stars, selon ce que je n'avais pas vu. Mais écoute, peut-être qu'il est dans la vitrine. C'est l'autre possibilité aussi. Mais où on est en train de le tester, parce que tu as un Logan Stankoven sur ta quatrième ligne présentement. Et Bourque et Stankoven, ça peut être des monnaies d'échange pour aller chercher un gros morceau. Il y en a peut-être un disponible. En tout cas, lui semble s'être rendu disponible chez les Blackhawks de Chicago. C'est Seth Jones. Bon, Jones, lorsqu'on est allé le chercher dans une transaction avec Columbus, moi, j'en avais parlé à l'époque. Je trouvais que c'était un défenseur qui avait ralenti. Ça s'est confirmé du côté de depuis qu'il était avec Chicago. Là, c'est plus le grand défenseur qu'il était, mais il est capable de manger des minutes dans une équipe où il y aurait un Ice Cannon et un Harley devant lui. Si on est capable de l'intégrer, ce qui ne sera pas facile, mais on a Tyler Seguin qui est sur la liste des blessés. Je pense que sa saison est terminée ou à peu près.
Oui, mais ils ont été chercher Granlund et Cody Ceci. Donc, le plafond salarial, c'est pas un puits sans fond non plus.
Non, c'est ça. Mais là, est-ce que Chicago peut, en gardant 50%, ça coûterait la totale. Mais là, Jones a clairement signifié qu'il voulait être échangé.
Écoute, garder 50 % de 9,5 millions pour encore 1, 2, 3, 4, 5 saisons, tu gardes plus de 4 millions pour 5 autres années où tu viens dire, on dit bye-bye après de c'est 4,25 millions exactement. C'est énormément d'argent. Seth Jones a un horrible contrat. Oui, il mange des minutes. Oui, c'est un défenseur qui est rapide, qui a un sens offensif. Mais 9,5 jusqu'en 2029-2030, attache ta tuque.
Puis,
honnêtement, là.
Tu sais, on regarde 5 ans avant, là, Connor Bedard va être rendu à 24 ans. Techniquement, les Blackhawks vont se sortir du trou un jour ou l'autre, vont être rendus dans une phase un peu plus compétitive.
Il est profond, le trou. Voyons,
oui, mais tu sais, sur un horizon de 5 ans, tu veux pas traîner ça de salaire mort sur ta masse. Tu sais, c'est un.
Puis, il ne faut pas oublier, là, Seth Jones a 30 ans. Et on pense qu'il a ralenti. Seth Jones, dans 3, 4, 5 ans.
Mais Seth Jones, dans un rôle sur une deuxième paire, disons, à Dallas,
ce serait un fit parfait, là, c'est ça. Là.
Tu sais, je pense que sur la glace, c'est le fit parfait. Après
Dallas,
ça, les côtés chiffres.
Dallas libère Jamie Benn l'an prochain, qui est un énorme contrat.
Non, c'est ça.
Mais bon, on regarde juste des chiffres. Oui, il va y avoir des appels pour Seth Jones. Puis, il a beau dire qu'il veut partir de Chicago, c'est une autre histoire de réussir à l'échanger.
Parlant de contrats qui n'étaient pas échangeables jusqu'à tout récemment, Eric Carson, semble-t-il, pourrait changer d'adresse lui aussi avec les Pingouins. Bon, les Pingouins, ça regarde pas. T'sais, on le sait, là, on connaît la réalité là, que oui, on veut être fidèle avec Sidney Crosby, Evgeny Malkin, à Christopher Le Temps, mais cette équipe-là s'en va vers le fond du classement. Kyle Dubas qui danse sur comment je peux orchestrer une remontée alors que une reconstruction plutôt, alors que je dois garder ces gros contrats-là. Là, on est rendu à un moment où il restera 2 années au méga contrat d'Eric Carson. Carson, cette année, quand même, là, 40 points en 59 matchs, donc il fait encore un bon travail offensivement. Peut être absolument un défenseur numéro un. Est-ce qu'on atteint, on a atteint un point où, si on garde un peu de salaire du côté des Penguins, là, où Erik Karlsson peut être échangé?
Possiblement, mais c'est vraiment une question de où est-ce que cette équipe-là s'en va? C'est
en bas.
Oui, on le voit au classement, ça dégringole, mais tu sais, à court moyen terme, pour les dernières années de Crosby, si tu gardes Sidney Crosby dans la formation, si tu décides de ne pas l'échanger puis d'essayer de faire les séries pour une dernière fois, peut-être avec lui, c'est vraiment une question d'orientation de la part de l'état-major parce que, comme tu dis, Karlsson a encore du bon hockey visiblement en lui. Là, tu l'échanges pour quoi? Des choix? Pour un joueur capable de faire de remplir un rôle similaire, tu sais, c'est une drôle de position.
Non, non, ils sont,
là,
Carl Dubus, depuis qu'il est arrivé à Pittsburgh, doit marcher sur des œufs parce qu'en plus, c'est des nouveaux propriétaires. Quand il est arrivé, il ne pouvait pas dire, écoutez, vous venez d'investir, ça devait être dans les milliards là, à ce moment-là pour les Pingouins, à peu près la valeur. Là. Vous venez d'acheter cette équipe-là, puis moi, je vais, avec ma stratégie, vous donner 5-6 années de mauvaise équipe, de mauvais hockey. Puis je vais peut-être essayer de même convaincre le visage de l'équipe qui devrait aller jouer ailleurs. Tu ne peux pas faire ça. Même si c'est la meilleure solution à moyen terme, à long terme, il ne pouvait pas faire ça. Puis là, il est encore pris là-dedans. Donc, à un moment donné, quand est-ce que tu perces l'abcès, puis tu dis à Sidney Crosby, écoute, prends ta décision. Si tu veux partir, tu partiras. Sinon, les Pingouins doivent bouger. Puis je pense que Karlsson, en gardant 50% de son contrat, là, on commence à se rendre. On n'est plus comme à l'époque où il était à San Jose puis il restait 5 ans de contrat.
Oui, on parle de San Jose. San Jose retient déjà 1,5 million du contrat. Les Pingouins, Kyle Dubas, restent seulement 10 millions sur ses feuilles pour Erik Karlsson.
Seulement.
Tu peux encore garder une portion. Honnêtement, je crois qu'Erik Karlsson est plus facilement échangeable que Seth Jones. Erik Karlsson a encore de gros chiffres offensifs. Aux quatre nations, était quand même un des bons défenseurs de la Suède. On verra. Écoute, les Pingouins, Sidney Crosby doit dormir le soir puis rêver à une réinitialisation comme celle des Capitals de Washington qui ont réussi à tourner l'équipe en peut-être une, deux saisons avec de bonnes transactions hockey. Mais jusqu'à date, Kyle Dubas n'a pas encore non plus réinventé la formule gagnante avec les Penguins de Pittsburgh.
Il commence à accumuler des choix. Là. Il en a deux en première ronde cette année, trois choix de troisième ronde. Il y en a d'autres aussi. Donc, c'est juste que cette réinitialisation-là va se faire sur 10 ans si on ne donne pas un gros coup de barre. Donc, peut-être que la reconstruction est un peu préférable dans le cas des Penguins. Hey, les Bruins, est-ce que là aussi, on est capable de réinitialiser sur la mouche, on the fly, comme on dit. Là. Est-ce que c'est possible? Parce que là, au niveau du classement, les Bruins, on est à un point des séries éliminatoires avec un match de plus de disputé. Mais là, la pause est peut-être arrivée au bon moment pour les relancer un peu parce qu'on avait perdu plusieurs matchs avant la pause. Charlie McAvoy qui est blessé. Ça va surtout pas aider cette équipe-là. Les acquisitions qu'on a faites justement pour tenter de réinitialiser à la suite du départ à la retraite de Bergeron et de Krejci, ça n'a pas fonctionné. Vous vous attendez à quoi comme stratégie du côté des Bruins?
Mais c'est peut-être l'équipe la plus intrigante, celle des Bruins de Boston, avec Don Sweeney. Sweeney qui a dit que c'est pas impossible qu'on échange le capitaine Brad Marchand. Marchand, c'est quand même 16 saisons avec le logo des Bruins de Boston.
Ils sont pas très, très langue de bois, hein, Boston?
Non. Mais ça vient avec des qualités et des défauts. Là. Ils ont été aussi peu langue de bois avec Jeremy Swayman. Ça a été très long dans les négociations. C'est le style Boston, c'est le style Cam Neely. Brad Marchand a beau avoir ralenti. Il a quand même 45 points en 58 matchs. Il va y avoir un gros marché pour un Brad Marchand, un gars qui a déjà gagné, qui a de l'expérience.
Qui vient de gagner.
Qui est fatiguant, qui vient de gagner, qui est dans ta face.
Et lui, il n'a pas une clause non-échange complète.
Lui, par contre, a dit qu'il se décrit comme un Bruins de Boston, qu'il espère terminer sa carrière avec les Bruins, comme Patrice Bergeron l'a fait. Mais écoutez, il y a quelques années, les Bruins ont réussi à ne pas renégocier avec Zdeno Chara. Puis Chara, après beaucoup d'années à Boston, a roulé sa bosse là, dans quelques villes. Je pense une équipe qui a un discours réaliste aussi, par contre. On voit que le tapis glisse sous les pieds des Bruins, surtout sans Charlie McAvoy. une participation aux séries, ça va être très, très, très difficile du côté de Boston.
C'est une équipe qui est, je trouve, bien placée pour prendre 3 années off, là. 3 années de reconstruction, puis revenir en force. T'sais, Pastrnak va être encore là avec son contrat est là. Charlie McAvoy est signé longtemps. T'as un Zadorov qui est fiable, qui est signé longtemps.
Et ouais, mais Lindholm, ça va être d'autres choses. Les nombres vont peut-être devenir 2 mauvais contrats. T'as peut-être, Jeremy Swayman aussi qui est là.
T'as Jeremy Swayman qui est là. T'as un noyau qui devrait être encore bon dans 3-4 ans. Après ça, qu'est-ce que tu vas ajouter à ça, c'est de voir. Mais d'échanger Marchand présentement, puis de l'accepter qu'on passe à d'autres choses, je pense que ça a du sens du côté des Bruins.
C'est aussi, au niveau de la culture, on a beaucoup vanté la culture de cette équipe-là dans les dernières années. L'héritage d'un Chara, d'un Bergeron et tout ça qui était repris un peu par Brad Marchand, par David Pastrnak. Là, si tu échanges Marchand, tu tombes à McAvoy, mais le noyau de cette équipe-là qui, il y a 2-3 ans à peine, était quand même fort. C'était l'identité des Bruins de Boston. Tu regardes ce qui va rester. Tu sais, c'est un pas un risque, mais c'est une grosse décision à prendre au niveau de la culture d'équipe, de se débarrasser, ben d'échanger Brad Marchand, puis de se retrouver avec des éléments qu'on a greffés à ce noyau-là. Tous les éléments qu'on a greffés au cours des années, ben c'est eux qui vont rester, puis le noyau est un peu décimé. Donc, c'est ça qui va être intéressant de voir les décisions qu'on va prendre de ce côté-là, puis si cette équipe-là va être capable de garder cette culture-là, puis de la faire vivre dans le temps. Un McAvoy, je suis pas inquiet. C'est un gars qui, tu sais, on l'a souvent vanté comme le prochain capitaine des Bruins de Boston, puis c'est un gars qui a l'identité de cette équipe-là. Mais après ça, ça va être de transmettre ça aux autres, puis de rebâtir un nouveau noyau plus actuel, peut-être, autour de jeunes éléments qui vont venir au courant des prochaines années, là, parce que côté vétéran, on en a quand même beaucoup à Boston. Puis
je pense pas que le bassin d'espoir est très spectaculaire.
Non,
on a mal repêché là, au fil des années. Là. Une certaine année où il y avait quoi? Matthew Barzal, Kyle Connor et
Thomas Chabot. Le fameux repêchage de 2015.
Juste un des trois aurait pas mal changé le visage parce que les Bruins avaient 3 choix. Dans le fond, ça, c'est les 3 joueurs qui ont sorti après les 3 choix de première ronde.
Vous avez repêché Jake DeBrus, Zboril.
Zboril.
DeBrus.
C'est DeBrus qui
est... Zboril,
je suis même pas sûr. C'est
Oui, DeBrus, 100%.
Tout le monde sur ça.
Fameux repêchage.
Attends, et l'autre, c'est Machine. Senishin.
Zboril, DeBrus, Senishin, 13, 14, 15. Ensuite, t'avais 16, 17, 18, Barzal, Connor et Thomas Chabot.
Senishin qui joue à Schwenningen avec les Wild Wings dans la Ligue allemande présentement. Donc, c'est ça. Ça en dit long, 15e choix. Boril, lui, il est du côté de Pardubice en République tchèque et DeBrus, bon, a changé Vancouver. D'adresse depuis et est à Vancouver.
J'espère simplement que les Bruins vont agir avec classe dans le dossier Brad Marchand. Si jamais ils ont à bouger Brad Marchand, là, je lance une équipe. Mais Brad Marchand avec l'Avalanche du Colorado, avec Nathan MacKinnon, 2 gars de la Nouvelle-Écosse, 2 très bons amis, je pense que ça pourrait être un très, très bon mariage pour l'Avalanche du Colorado.
Ça, c'est si Sidney Crosby n'est pas déjà arrivé au Colorado, parce que je veux dire...
Honnêtement, ces trois-là, on l'a vu à la confrontation des 4 nations, c'est des inséparables. Ouais, je pense
familles,
que si on
les
leur
familles
offre...
suivaient aussi.
Ben oui, on les a vus au petit matin là, de la finale, les familles qui célébraient ensemble dans le lobby de l'hôtel. T'sais, je pense que si on leur offrait la chance de jouer, de passer une fin de saison ensemble, de jouer des séries ensemble, je pense pas qu'il y en a un des trois qui refuserait ça. C'est certain qu'on... C'est des positions délicates, là. Crosby avec les Pingouins, Marchand avec les Bruins, c'est vraiment des joueurs qui ont un attachement fort à leur équipe, mais je veux dire, à un moment donné, on est peut-être rendu au moment où il faut tirer sur le plaster. Puis,
c'était des... Je veux pas dire dynastie, là, mais c'était des belles histoires de succès pendant toutes ces années-là, ces équipes-là, mais c'est ça, le plaster, là,
on l'enlève.
Il faut l'enlever, tout part. Ça. En terminant, messieurs, je vais vous poser 2 questions. Là. La première, vous regardez toutes les équipes présentement qui sont en séries éliminatoires. Laquelle, selon vous, a le plus besoin de s'améliorer, doit bouger pour être capable d'aller plus loin que la première ronde?
Wow, c'est une bonne question.
Je vous laisse passer.
Ouais, en ce moment, je regarde la formation des Sénateurs d'Ottawa. Je pense que c'est une équipe qui a enfin franchi une certaine étape. Là. C'est pas encore confirmé. On est dans la course, on est dans le trafic, dans la circulation avec toutes les autres équipes. Mais tu regardes cette formation-là, je pense qu'on va avoir besoin d'un peu plus de profondeur. Là. C'est pas une équipe qui est équipée pour les séries. Quoique, on a vu ce que Brady Tkachuk est en mesure de faire quand l'enjeu est grand. C'est sûr que ça va être celui qui va sonner la charge pour cette équipe-là, mais tu regardes un troisième trio avec Noah Gregor, Michael Amadio. Ça descend rapidement quand tu regardes la formation. Même chose en défensive. Là,
l'absence de Pinto et de Norris fait mal présentement. Oui. Un Pinto est peut-être possible d'être monnaie d'échange contre un centre d'expérience. Norris est tellement fragile, il y a tellement des antécédents que ça va être difficile. Mais oui, les Sénateurs...
Ton troisième duo, t'as Nicolas Martin-Palot qui a fait du travail honnête à la confrontation des Quatre Nations, qu'on a appris un peu à découvrir mais je pense pas que c'est le défenseur sur lequel tu veux mettre tes espoirs.
À quel point il reste des espoirs de qualité dans le bassin des Sénateurs versus, tu sais, il y en a tellement qui ont monté, là, qui ont gradué. Là. Il me semble qu'il doit en rester un peu moins de qualité présentement. Là.
Je pense qu'on est rendu pas mal au bout de ça, là, de cette reconstruction-là.
Nick, moi, je vais aller avec deux équipes.
Vas-y.
Je garde une équipe dans l'Est, le Lightning de Tampa Bay. Pour moi, le Lightning a encore un noyau très fort qui peut faire mal en série, mais le Lightning manque cruellement de profondeur à l'attaque. Zemgus Girgersen, qui est dans un top 9 en ce moment, Mike Mitchell, Chaffee, Gage Conclave, Michael et Simon.
Ça, c'est deux excellents joueurs.
Deux excellents joueurs.
Ouais. Donc, le Lightning, Julien Brisebois a le don des fois. Là, de...
on dirait du Gilles Latulippe, ça.
Julien Brisebois.
Comme Claude Blanchard, là.
je me laisse pas déconcentrer. Julien Brisebois a le don d'être actif, d'être intelligent, d'être rusé. Donc, je crois que Brisebois pourrait aller chercher deux attaquants pour donner un gros coup de main à son équipe. Puis l'autre équipe, moi, je regarde dans l'Ouest, les Oilers d'Edmonton. S'ils veulent un jour gagner la Coupe Stanley, c'est toujours le même refrain. Mais les Oilers auront besoin de renforts à la ligne bleue. Pas une grande surprise, mais d'après moi, on va cogner à la porte pour aller chercher un défenseur ou deux.
Tu parles des Oilers, moi j'ajouterais les Canucks là-dedans.
Je suis même pas convaincu qu'ils vont participer aux séries.
C'est
donc
fade cette année.
J'ose même pas parler des Canucks.
Là, Kevin Lankinen a l'air parti pour être le gardien numéro 1 de l'équipe. Demko est encore blessé, donc... Mais en effet... Oui, vas-y.
Jean-François parlait de deux attaquants pour le Lightning. Tu sais, ajoute un Evans puis un Armia à cette équipe-là, puis on commence à parler en termes de profondeur. Fait que c'est un exemple parfait. Mais là, est-ce que tu envoies...
Dans ta division?
Oui, mais tu sais, c'est pas comme si tu échangeais Cole Caulfield.
Mais ensuite, ils doivent les re-signer. Donc, ça va être dans ta division. Ça se peut qu'ils soient capables de s'entendre avec.
C'est ça, effectivement. De toute façon, c'est pas supposé d'être un de ces deux joueurs-là.
Cette théorie-là de ne plus bouger à l'intérieur de la division...
Ben, depuis que les sections ont 8 équipes, il n'y en a plus 3, il y en a 2. Tu vois moins, tu sais, il fut une époque, c'était 8 matchs Canadiens-Boston chaque année.
Ouais.
Maintenant, c'est 3 ou 4. Ça fait un peu moins mal, donc effectivement. Messieurs, dernière question avant qu'on accueille nos amis Justin Carbonneau et Caleb Desnoyers. Vous regardez toutes les équipes qui sont en séries éliminatoires. Laquelle, selon vous, est à une transaction d'aller chercher sa place pour les séries?
Peut-être une réponse facile, mais je vais y aller avec les Flames de Calgary. J'aime beaucoup Dustin Wolfe comme jeune gardien. C'est une équipe, les Flames, qui ont déjà réalisé quelques transactions pour s'améliorer. On dirait que ça n'a pas encore... Le gâteau n'a pas encore levé, mais une bonne transaction pour les Flames. Puis je réponds les Flames parce que je crois que les Canucks vont finir par glisser. On dirait que, je sais pas, Elias Pettersson, c'est au ralenti... N'a pas été bon du tout à la confrontation des Quatre Nations. Quint Hughes qui revient d'une blessure.
Demko, c'est ça que je disais.
Demko qui est blessé. On dirait que la chicane a envahi le vestiaire à Vancouver. Là.
Ils ont de la misère en calvaire. Hein?
Oui, c'est beau, mon chansonnier de Saint-Hyacinthe.
Boum,
déjà.
Non, je vais y aller avec les Flames. Vas-y, Guillaume.
Là, je sais pas, pour une dernière fois, peut-être.
Les Rangers.
Ben oui, mais
ben
c'est
oui,
ça.
Ben oui, ben oui.
Je m'en allais là, mais c'est parce que j'ai dit il y a pas si longtemps que j'abandonnais.
Vivre et mourir avec les Rangers à New York.
Ouais, mais pour une dernière fois, c'est la dernière chance que je leur donne.
Pour une dernière fois.
Je me dis qu'avec une acquisition à la ligne bleue...
Mais ils peuvent pas aller chercher
peut-être
Jerry Boulet.
Qui?
Jerry Boulet, ils peuvent pas aller le chercher.
Mais Juro...
Malheureusement.
Mais Juro Vaakanainen, s'il peut se retrouver sur la galerie de presse du Madison Square Garden pour le premier match des séries, j'aime les chances des Rangers de faire un bout de chemin. Donc, j'irai avec une acquisition à la ligne bleue, idéalement deux. Peut-être. C'est ton jamais.
Une grosse couverture médiatique aussi. Vaakanainen pour un pool du but gagnant. Pas facile à écrire sur un petit papier. Donc, si jamais il est sur la passerelle de presse...
Faut que vous expliquiez c'est quoi à l'avant.
Non,
à l'avant
c'est, une, c'est une vieille tradition. Allons-y rapidement. Pool du but gagnant, c'est, on parle de 36 noms dans un chapeau. 18 plus 18 pour ceux qui ont plus de difficultés en mathématiques. On arrive à 36. Les 18 joueurs, dans le fond, en uniforme. Puis, on pige des noms. Donc, 36 collègues qui ont à piger un nom. C'est uniquement
du
hasard.
C'est ça. Tout le monde s'en
va. Quand tu dois écrire un Vaakanainen, c'est plus long.
Puis moi, Nick, j'avais Sidney Crosby en finale Canada-États-Unis. J'aimais beaucoup mes chances.
J'avais Cale Makar.
J'avais Cale Makar. Les gars, vous aviez bien pigé. Oh,
oui. Ouais. C'était une bonne stratégie de pige, mais.
Non.
C'est le hasard.
Ça veut rien dire. Hein?
Ça reste
dire.
Le hasard.
Ça, c'est quand même quelques dollars intéressants. Ça aurait bien fini la soirée, disons-le, de la sorte.
Oui, on ne se serait probablement pas couché.
Surtout que c'est une soirée qui, point de vue, c'est un investissement net. Parce qu'à l'heure qu'on sortait du Tilly Garden, tu ne peux pas dire mais je vais payer quelques consommations froides à des collègues et des amis.
Tout est fermé.
Guillaume et moi avons quitté le Tilly Garden à 2h40 ouais, 2h40 environ. Donc, il était tard.
Il était pas mal tard. Good. Ben écoutez, les gens, là, bien évidemment, on va suivre tout ça, ce qui s'en vient dans la prochaine semaine. Les gars, vous allez être au match. Mais moi, jeudi, c'est moi qui est au match contre les Sharks. Donc, et les auditeurs, bien évidemment, suivez ça sur lnh.com, sur nos réseaux sociaux. Là. Tout ce qui se passe chaque jour, il y a des... en anglais, Trade Buzz, là, un résumé de l'actualité des transactions. Donc, c'est ce qu'on peut lire. On peut lire ça, tout ça, sur le site de lnh.com. On poursuit l'émission. On vient de parler de ce qui s'en vient à court terme avec la date limite des transactions. Mais maintenant, on va parler beaucoup plus de l'avenir, du futur de la Ligue nationale de hockey avec nos deux prochains invités. Ce sont deux des meilleurs espoirs du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey chez les espoirs québécois. Le premier, Caleb Desnoyers. Dans son cas, Desnoyers, présentement, il est classé au 7e rang par le Bureau central de dépistage de la Ligue nationale de hockey au niveau des attaquants nord-américains. Évolue pour les Wildcats de Moncton. 76 points en 49 matchs cette année avec les Wildcats. Donc, Caleb Desnoyers. Salut Caleb, ça va bien?
Bonjour messieurs, ça va bien?
Ça va très bien. Merci d'être là aujourd'hui, Caleb. Et notre deuxième invité, Justin Carbonneau. Dans son cas, Justin évolue pour l'Armada de Blainville-Boisbriand. 73 points, pas très loin de Caleb, avec 73 points en 52 matchs cette année avec l'Armada. Dans le cas de Justin... Il est classé au 13e rang du Bureau central de dépistage chez les patineurs nord-américains. Donc, si tout va bien, deux choix de première ronde. Justin Carbonneau, merci d'être là aujourd'hui. Comment tu vas?
Ça va bien?
Les gars, vous êtes habitués à votre routine de joueur de hockey de la LHJMQ, mais aujourd'hui, vous aviez une journée spéciale. Vous faites la tournée des médias montréalais et... Vous avez fait un petit détour par le Centre Bell aujourd'hui. Comment ça s'est passé? Les gars, Guillaume, tu étais avec eux en plus aujourd'hui. J'imagine que c'est spécial de voir les portes de ce qui est probablement, on l'espère, votre avenir s'ouvrir. Juste un peu, juste pour vous donner cet avant-goût-là.
Oui, vraiment, c'est sûr que c'était vraiment une belle expérience. Puis, tu sais, juste le fait de plus jeune aussi l'avoir vécu à regarder des matchs, mais que tu vois pas vraiment c'est tout ce qu'il y a derrière les rideaux, puis tu de rencontrer des nouveaux gens. Donc, c'est vraiment une belle expérience aujourd'hui de pouvoir aller voir ça. Là.
Y a-tu une rencontre en particulier qui vous vient en tête quand vous pensez à la journée d'aujourd'hui? Vous avez jasé avec les joueurs du Canadien, vous avez jasé avec Martin Saint-Louis. Qu'est-ce qui vous reste en tête avec toute cette journée-là?
Honnêtement, il y a eu pas mal de rencontres qui ont été... très pertinente. Je pense que Martin Saint-Louis, premièrement, on a commencé avec la tournée des médias avec le Canadien avec lui. Je pense que tous les points qu'il nous a amenés qui étaient pertinents, tu sais, le fait que tous les détails comptent. Puis, tu sais, on parlait avec les joueurs comme Alexandre Carrier, Lane Hudson, puis ils nous disaient que c'est le fun ce qu'on vit en ce moment, puis tu sais, on pense que c'est tough, puis on travaille, mais c'est juste le début. Tu sais, on a encore beaucoup de travail à faire, puis c'est juste de profiter de ces moments-là, de notre saison, notre repêchage, puis de s'assurer d'être prêt pour ce qui reste à venir. Là.
Moi, Justin, je pensais que tu allais dire que ta rencontre la plus marquante, c'est avec Luc Gimena, qui t'a donné probablement le conseil le plus précieux ce matin. Et je ne sais pas si on peut en parler ici en ondes, mais
ouvert la porte en parle,
Justin avait son magasin qui était ouvert ce matin. Ouais, Luc G lui a juste rappelé qu'il y avait dizaines de caméras dans le vestiaire.
Parlant d'ouvrage de porte, porte est ouverte. Les autres à la maison peuvent décider, deviner c'est quoi, mais ah, ça arrive. Écoute, merci à Luc d'avoir précisé. Je ne serais pas venu prendre une photo avec Nick Suzuki ou là, dans le sun avec... À le garage, voir, mais.
mais ouais. C'est drôle parce qu'on en a reçu à chaque année, on reçoit bon, les meilleurs espoirs. J'ai rarement vu deux gars à l'aise comme ça avec le micro, à l'aise aussi ensemble pour se piquer un peu. Cette bonne entente-là, ça vous vient de où, les gars? Parce que je veux dire, vous n'êtes pas du même coin, vous n'avez pas évolué ensemble dans les rangs hockey mineur, tout ça. Là.
Non, ben, je crois que c'est les deux, c'est nos personnalités, qu'on est deux personnes avec beaucoup d'enthousiasme, puis. C'est deux personnes, t'es pas tant gêné de la vie, puis qu'on en profite beaucoup. Mais on avait eu la chance de se rencontrer plus jeune, puis sinon, à part de ça, c'est qu'on on veut juste profiter de chaque moment, puis on est deux personnes qui vivent dans le moment présent. Donc, pourquoi pas avoir du plaisir à chaque fois qu'on est ensemble.
Ça a commencé quand même au Défi des meilleurs espoirs. Je pense que vous avez bandé là, vous avez créé un lien à ce moment-là.
Ouais, exactement. On a eu la chance en novembre de vivre un très beau moment, les deux, puis d'avoir été les deux sélectionnés parmi la LHMQ pour ces deux gros matchs contre les étapes. Puis honnêtement, ça a vraiment été une très belle expérience. Puis c'est là surtout qu'on a développé une relation, qu'on se connaissait un peu plus jeune, puis qu'on s'entendait dans les échos, mais que là, c'est comme ça a vraiment été la première fois en novembre qu'on s'est connus puis qu'on est devenus des bons amis. Là.
Cette amitié-là, est-ce que ça peut vous aider, Justin ou Caleb, peu importe, là, justement de créer des liens? Il n'y a pas grand gars de votre âge qui vont vivre le même stress à quelques mois d'un repêchage. Le fait que les deux, vous pouvez partager comment vous vivez, comment vous jonglez aussi avec les attentes, le stress, etc. On est à quoi, là? Cinq mois de repêchage?
Quatre mois.
Ça va vite. Quatre mois. Juillet, juin, 27, 28.
Père Noël est passé chez vous, fait déjà deux mois.
Oui, oui.
Aujourd'hui même, d'ailleurs.
Très bon en mathématiques.
Ouais. Mais pas pour rien. T'sais, si tu avais voulu faire de l'argent, tu serais allé en mathématiques, mais ça n'a pas. t'es, maintenant, t'écris. Tu peux, comme on dit, tu écris ce qu'on voit. C'est pas mal
oui,
ça.
Non, mais. Pour revenir à la question de base, après un long détour de mathématiques, est-ce que vous réussissez de temps en temps à vous en parler, à vous confier un peu sur toute la nervosité qui découle par rapport au repêchage?
Oui, bien, c'est ça qui est le fun entre ma relation avec Caleb. Puis je pense que, comme tu as dit, Guillaume, je pense que ça a recommencé notre année de repêchage de la même manière, je pense, avec le défi des espoirs. C'est là qu'on a peut-être plus, on en a le plus parlé. T'sais, on a joué ensemble un peu plus jeune, mais le fait que, oui, on a eu du plaisir en dehors de la glace. Puis moi, ce que j'adore, c'est qu'on a du plaisir dehors de la glace. Puis je pense qu'on ensemble, on est capable d'avoir du fun, puis on s'entend bien. Mais ça, à la glace, après ça, on est capable d'être focus, puis de se parler de stratégie, puis de comment ça se passe notre repêchage, nos saisons. On s'écrit ou on se voit de temps en temps. Donc, tu sais, c'est oui, on a du plaisir, puis tout ça, on s'entend très bien. Mais après ça, c'est à la glace, on s'entend autant bien. Donc, honnêtement, je pense que all around, c'est vraiment le fun de notre année, là.
Es-tu sûr que vous entendez si bien que ça sur la glace quand vous jouez contre?
Ben là, on ne s'est pas encore affronté. On s'affronte encore deux fois dans ce mois-là.
OK, ça s'en vient.
Ben là, gars, je vais le dire en ondes, mais il y a des bonnes chances que je le droppe, là, mais... j'ai hâte de voir. C'est sûr qu'on va se pogner un peu, là, mais peut-être qu'on va rire après le sifflet, mais non, ça va être une compétition, c'est sûr.
S'il veut finir sa saison, il ne faut pas falloir qu'il me droppe.
Comment, je sais qu'on va rentrer dans une question cliché, puis vous m'excuserez, les gars, là, mais regardez-vous les fameuses listes. Les deux, vous savez que vous avez de très bonnes chances d'entendre votre nom au premier tour. Là, on va rentrer dans la folie des repêchages simulés. Là. Il va en avoir un à chaque deux semaines. Est-ce que vous y
chaque
jetez
semaine,
un œil? Chaque semaine, peut-être. Est-ce que vous y jetez un œil ou, le plus possible, tu te tiens loin de ça?
Ben, c'est la réponse facile à dire, mais honnêtement, non, vraiment pas. Je crois que c'est plus... on se la fait plus envoyer que d'autres choses, que ce soit des amis ou de la famille, puis des gens qui sont peut-être moins conscients que t'sais, sans dire que c'est mauvais de voir tout ça, mais au final, puis la chose que que mes parents puis mon frère m'avaient dit en début d'année que je me dis toujours, c'est que il y a 32 listes qui sont importantes, puis c'est eux des 32 équipes. Donc, peu importe ce qu'on va voir de simulation, peu importe sur les réseaux sociaux, peu importe, ça va rien changer au final. C'est le 27 juin que ça va se décider, puis c'est l'équipe qui va t'aimer le plus, qui va te repêcher, puis c'est ça le plus important.
Caleb, on parlait d'ouverture de porte tantôt. Un qui t'ouvre la porte, c'est toute ta famille, parce que tu viens d'une famille de hockeyeurs. Ton frère est dans l'organisation des Flyers. T'es ton père, tes oncles ont joué au hockey senior, semi-pro, junior dans notre coin. Là, toi puis moi, on est du même coin, Saint-Hyacinthe. Là, le Lazare, le cousin de Saint-Hyacinthe, pour ceux qui connaissent. Mais c'est quoi les trucs qui t'ont donné avant cette saison-là, puis pour ce qui s'en vient, tout ça?
Ah ben, c'est sûr qu'ils ont vraiment été importants, t'sais, depuis que je suis jeune, à tout mon développement, tout mon entourage. Puis que ça soit présentement à Moncton, ma pension, tout le monde est vraiment important, mes agents, mais c'est sûr que ma famille, c'est la plus grosse partie de tout ça. Mes parents qui ont vraiment inculqué des bonnes valeurs de respect et de fraternité à moi puis mes deux frères. Mais c'est sûr qu'il y a depuis que je suis jeune, c'est vraiment mon modèle, puis mon frère, mais mon meilleur ami en même temps. Puis c'est la personne qui est là pour m'aider, puis m'aider à faire le premier pas à chaque nouveau niveau qui arrive.
Toi, Justin, on regarde la liste du classement des pointeurs en ce moment. Il y a 3 points qui vous séparent. Je pense qu'il vous reste 14-15 matchs à cette saison-là. Est-ce qu'il y a une compétition qui s'installe entre vous? Est-ce que vous regardez ça quand même? Je vois Caleb qui fait des sparages là, pour se vanter d'avoir les devants dans cette course-là. Est-ce que vous portez une attention à ça?
Caleb, oui. Non, mais honnêtement... Tu sais, comme on en a parlé, moi et Caleb, je pense que c'était hier, on a eu une question qui ressemblait à ça, puis c'est la première fois qu'on a entendu ces questions-là. Est-ce que vous pensez au point? Il y a beaucoup de monde qui dit non, ils pensent pas, mais ça reste qu'on est des attaquants offensifs, donc on peut pas mentir et dire on s'en fout. T'sais, on veut faire gagner notre équipe offensivement, aussi défensivement, mais offensivement, on veut faire des points pour faire gagner notre équipe. Donc, c'est sûr qu'on regarde ça, c'était des mauvaises séquences, tu trouves des solutions, comment connaître des meilleures parties et tout ça, mais je pense que qu'est-ce qui est un point positif de nos deux types de jeux, c'est que si on joue de la bonne manière, d'une manière physique, les deux sens à patinoire, les points vont venir. On n'est pas là pour attendre ça, mais c'est sûr que c'est le fun d'en faire quand tu joues de la bonne manière.
Puis pour toi, qu'est-ce que tu penses, Justin? T'sais, cette année, qu'est-ce qui fait ton succès? Qu'est-ce qui explique que tu sois l'homme de confiance à Beaubriand et que tu as pris le lead dans cette saison-là?
Surtout avec ton style de jeu, tu es un gars quand même qui n'a pas peur d'utiliser son gabarit. Tu es plus vieux un petit peu que d'autres joueurs qui vont être repêchés. À quel point, comme Guillaume dit, à quel point tout ça s'est mis en place cette année?
C'est sûr. Mon objectif, moi, l'année passée, c'était... j'étais un peu plus jeune que mes amis qui se repêchaient, mais c'était de me dire que c'est mon année de repêchage. Donc, l'année passée, j'étais arrivé en début d'année, puis je me suis dit, moi, cette année, je me fais repêcher. Puis, je savais que c'était l'année d'après, mais je me suis assuré de tout faire mes détails de la manière que je pouvais avec les entraîneurs, les autres joueurs qui se faisaient repêcher, comme l'Italien Vincent Desjardins, des joueurs comme ça. Donc, honnêtement, je me suis préparé comme ça. Donc, je suis arrivé cette saison, puis honnêtement... je pense qu'à Blainville, il y a pas mal de joueurs qui ont pris des... Je ne sais pas les nommer, mais il y a tellement de joueurs qui ont pris des steps cette saison, après Noël. On était cherché un excellent gardien. Je pense que le groupe d'entraîneurs avec Mathieu Turcotte. Puis, autant ça va jusqu'au à nos physios, à nos gens équipements. Je pense que tout le staff, honnêtement, à Blainville, m'a vraiment aidé. Je suis arrivé l'année passée, pas parfait. Puis, on crée un joueur de hockey à moi. Donc, je suis très grateful. Je suis très reconnaissant, honnêtement.
Justin, en date d'aujourd'hui, tu es 13e. Dans le classement en Amérique du Nord, de grandes chances d'être repêché au premier tour. Est-ce que c'est important pour toi d'entendre ton nom au premier tour ou ça reste un rang de sélection et c'est pas la fin du monde?
C'est sûr que c'est un rang de sélection. Dans un sens, personnellement, pour ma part, j'ai été repêché. Mon repêchage à la LGMQ, j'avais pour objectif de me faire repêcher première ronde, puis c'est pas arrivé. Puis je pense que c'est une source de motivation à chaque fois que je me lève le matin, c'est de prouver à tout le monde que c'était une erreur. Donc, honnêtement, le repêchage, c'est vraiment excitant pour nous deux. Puis on s'en va avec l'objectif de se repêcher le plus haut. Puis on veut se rendre le plus loin en série. Mais encore là, c'est juste un rang parce que, premièrement, je l'ai vécu. Puis rendu là, même si tu es repêché, ta place n'est pas assurée dans l'équipe, tu t'es repêché. Donc, je pense que ça serait vraiment le fun de me faire repêcher première ronde. C'est mon objectif. Mais après ça, il y a encore du travail à faire, je pense.
Toi, Caleb, il n'y a pas beaucoup de doutes sur le fait que tu risques d'être repêché au premier tour. Ton nom est souvent dans le top 10, dans les repêchages simulés et tout ça. Tu es sous les projecteurs depuis le début de la saison. on te regardait tantôt, tu as pris des photos à part du groupe. On te demandait beaucoup de... Tu étais beaucoup en demande avec les médias. Donc, comment est-ce que tu as négocié avec ça tout au long de la saison? Comment c'est devenu une habitude pour toi de gérer avec cette pression-là puis l'attention qui vient avec ton rang?
Oh, ben c'est devenu une habitude au fil de la saison plus. Début de la saison, c'est une nouvelle année... je ne pouvais pas vraiment le comparer à mon année de repêchage junior qui était beaucoup différente. Puis que, on voit qu'on est complètement à un autre niveau. Puis que, c'est du hockey professionnel rendu dans la Ligue nationale. Puis c'est là que tu remarques aussi que les médias jouent un rôle là-dedans. Puis ils sont beaucoup plus présents. Mais honnêtement, ça reste du bruit extérieur aussi. Puis ma mentalité depuis le début de l'année, c'est juste de rester moi-même sûr et en dehors de la glace. Donc, peu importe l'attention que je vais recevoir des médias ou des équipes, de peu importe, c'est juste d'être moi-même. Puis c'est ça qui va m'amener mon succès. Là.
Les Canadiens ont deux choix de première ronde cette année. Pas mal dans le coin, dans les deux cas, où ça pourrait être vos noms qui sont
appelés. Là, on ne le sait pas. Ils pourraient faire les séries.
Je te dis juste...
En ce moment, là. Déjà lancé.
Dans mon estimation, les Canadiens n'ont pas encore fait leur séquence de 15 victoires qui les mène en séries éliminatoires. Ça représenterait quelque chose de spécial. Alors, on en parle souvent. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui, c'est le rêve de jouer pour les Canadiens comme ce l'était pour tes parents, Caleb, seulement? Je ne sais pas, Justin, as-tu une famille de hockey? Toi aussi. Bon, ouais, pour vos parents, vos proches, c'était le rêve à l'époque. Est-ce que c'est encore ça? Qu'est-ce que ça représenterait pour vous autres?
Oui, bien, c'est sûr que Verpas, c'est une fierté. Puis on est deux jeunes très fiers d'être Québécois puis de représenter notre ligue. Puis on est Canadiens, mais surtout Québécois. Donc c'est sûr que ça serait une certaine fierté d'être repêché par le Canadien. Mais au final, personnellement, le but puis mon rêve, c'est d'être repêché dans la Ligue nationale. T'sais, oui, c'est l'équipe d'enfance du coin que je viens, les Canadiens, mais mon but, c'est d'être repêché. Puis comme on mentionnait tantôt, le repêchage, c'est seulement une étape parmi plusieurs qui vont t'amener à, oui, jouer ton premier match en Ligue nationale, mais après ça, être établi puis avoir une belle carrière. Là.
Flyers, peut-être aussi, je sais pas?
Non, pas nécessairement Flyers, honnêtement. Peu importe, ça va être tout, mais jouer avec mon frère, c'est sûr que ça serait un très grand rêve, mais pas nécessairement de place en particulier. Okay. Juste de... On sait jamais ce qui peut arriver dans la vie, donc... Peu importe ça serait où, ça serait le rêve.
Les gars, vous avez deux personnalités là, assez décontractées. Là. Tantôt, je regardais Caleb, il fouillait dans le coffre-fort qu'on a ici, dans la pièce. Justin, il a des talents d'imitateur extraordinaires.
Il a rencontré à peu près tout le monde dans le bureau ici. Ils sont déjà en train de négocier leur pension avec
Danny. Les deux ont posé de bonnes questions à Danny. Mais je ne sais pas si... t'as pas l'air d'un gars trop timide, Justin. Là, si ça te tente de te réessayer, deuxième prise, imitation de Roger Brulotte, oh, c'est le temps. Okay. Vas-y, mettons, c'est qui ton joueur préféré qui amène l'autre base? C'est qui ton
gars tantôt, c'est
lui, c'est Guerrero. Là.
Ouais, c'est classique,
fait,
c'est
Blady Guerrero. Je pensais un. Là.
Bonsoir, elle est partie!
Guerrero! Tu veux dire?
Vas-y.
Mais c'est ça, c'était Guerrero qui a sorti la balle là-dessus. Là, mais.
Mais Caleb, que tu le côtoies, Justin. Là. Qu'est-ce qui ressort de sa personnalité? T'sais, c'est un gars qui, on dirait, qui a du jus à l'infini. Là.
Il y a du jus dans... En tout cas, je suis impressionné. Là.
Qu'est-ce qui ressort de sa personnalité? Qu'est-ce qui te marque de lui?
Ben, honnêtement, c'est son enthousiasme. Puis c'est juste sa joie de vivre. Puis, c'est tellement important d'être une personne qui profite de la vie. Puis comme je mentionnais tantôt, il y a beaucoup de gens qui se projettent dans le futur ou à d'autres places, à d'autres moments, mais... T'sais, tu vois que c'est une personne qui est vraiment les pieds sur terre puis dans l'instant présent. Puis je crois tellement que c'est une clé du succès dans peu importe ce que tu fais dans la vie. Puis tu vois qu'il le fait à 100%. Donc c'est ça qui fait la beauté de sa personnalité. Là. Personnalité, ça... pas sa face.
Vas-y. Tu peux retourner l'ascenseur.
Ça va être vraiment moins long que ça. Mais... non, mais écoute, tu sais, Caleb, je pense qu'il y a deux pieds sur terre. C'est dans un joueur de hockey, je trouve des fois qu'il y a beaucoup de monde qui parle du talent sur la glace et tout ça, mais moi, ma philosophie ou ma manière de penser, c'est que c'est autant important ou sinon plus la manière que tu te comportes en dehors, par les détails que tu fais. Puis je pense que Caleb, il reflète bien ça. Je pense que c'est un joueur de hockey extraordinaire. Il travaille à 200 à patinoire, mais en tant que personne, je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'il va sortir encore plus tôt qu'il devrait. Donc, c'est quelqu'un qui est quand même drôle, mettons, là. Quand même drôle. T'sais, il est vraiment il est sympathique. Il a deux pieds sur terre. Il est facile d'approche. Puis de le côtoyer comme coéquipier. J'ai côtoyé sa glace pendant de la glace. Puis j'ai jamais eu de trouble avec. Là. Je pense qu'il y a une joie de vivre qui est vraiment compatible avec la mienne. Donc, non, c'est une très bonne personne.
Ça va être le fun si vous croisez en série, en tout cas.
Ouais, ça va peut-être être des commentaires plus moins smart, mais ouais, c'est ça. Ça serait moins doux, ouais.
Hey les gars, merci d'avoir été là aujourd'hui. On vous laisse partir. Vous avez quand même un horaire chargé depuis deux jours, mais je pense que c'est intéressant. C'est intéressant de vous avoir découvert un peu, peut-être d'avoir découvert peut-être le petit côté plus différent de ce que vous êtes. Souvent, on dit qu'il manque un peu de personnalité chez bien des joueurs de hockey. Là, on en a deux très fortes, très appréciées. On va vous suivre jusqu'en juin, puis on va vous souhaiter bonne chance pour le repêchage de cet été.
Merci beaucoup à vous, messieurs, de nous avoir reçus.
Merci, messieurs, de nous avoir reçus. Bien apprécié.
GF, Guillaume, merci aussi d'avoir été sur le balado aujourd'hui pour discuter. Balado qui, comme j'avais dit plus tôt, était plutôt occupé. Des gros sujets, mais c'est le fun. On est de retour et le sprint final vers la fin de la saison est amorcé. Donc, vous allez être avec moi dans les prochaines semaines. Comme je disais, prochain balado vendredi prochain, après la date limite des transactions. Donc, on va faire un résumé de tout ce qui s'est passé. GF, merci aujourd'hui d'avoir été là.
Merci.
Guillaume, merci aussi d'avoir été là.
Merci beaucoup.
Merci à Caleb Desnoyers, Justin Carbonneau qui sont venus dire bonjour et donner leur spectacle, soyons francs. Ça a été quelque chose de recevoir, comme je disais plus tôt, aisément les deux espoirs qu'on a reçus qui avaient le plus de gaz. On a eu du plaisir de leur parler. Et chers auditeurs, ben merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. On se reparle très bientôt.